Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, nous venons de faire ensemble 4 émissions faisant un état des lieux sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Pour cela, nous avons abordé divers sujets comme par exemple les stéréotypes sexués, le harcèlement sexuel ou encore la discrimination liée au sexe. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de l'égalité femmes-hommes dans le cadre professionnel. Pour cela, on va essayer de répondre à la question suivante que chacun de nous peut se poser. Au travail, je discrimine ou pas ? On entend souvent parler de discrimination au travail. Est-ce que cela peut concerner la fonction publique ?
Avant de répondre, je voudrais rappeler ce qu'est une discrimination au sens légal. C'est un traitement différencié entre deux personnes placées dans une situation comparable, dans un domaine et concernant un critère qui est reconnu par la loi. Et traitement différencié, c'est un acte, une décision, un choix qui s'exerce au détriment d'une personne sans raison valable ou, à contrario, qui favorise une catégorie sur une autre. Par exemple, ce qu'on appelle le délit de faciès, de refuser l'accès à un bien ou un service, le logement, le travail, l'entrée d'une discothèque par exemple, à une personne de couleur ou d'origine apparemment étrangère, c'est bien sûr une discrimination. La loi française reconnaît actuellement 25 critères de discrimination, dont l'âge, le sexe, la religion, l'apparence physique, le handicap, etc. Et tous ces critères peuvent s'exercer dans le domaine de l'emploi, au niveau du recrutement, de l'avancement, de la mobilité, de la formation, bon, tous les aspects de la vie professionnelle.
Mais est-ce que la fonction publique est vraiment discriminante ? D'abord, elle recrute sur concours. Ensuite, est-ce qu'elle n'incarne pas les valeurs de la République ? Liberté, égalité, fraternité.
Bah, si, évidemment, bien sûr que la fonction publique incarne les valeurs de la République. Et à ce titre, elle a un devoir d'exemplarité au niveau de l'égalité de traitement entre les personnes. Mais la réalité est toujours un peu plus complexe. Et en 2016, par exemple, un rapport, Lorty, du nom du député qu'il a publié, a fait apparaître un certain nombre de discriminations dans l'accès à l'emploi public, et a repéré 3 catégories de personnes qui étaient victimes de discrimination. Les femmes, les personnes nées hors de France métropolitaine et les habitants des villes à fort taux de quartiers prioritaires. Et les 3 peuvent d'ailleurs se cumuler. Et de manière plus générale, chaque année, le défenseur des droits traite un certain nombre de cas de discrimination au sein de la fonction publique. Aucune collectivité donc n'est à l'abri de ce genre de pratiques discriminatoires.
On a du mal à croire quand même que les agents de la fonction publique fassent exprès de discriminer.
Ben, c'est vrai. Il y a quand même très peu de personnes qui soient ouvertement et sciemment racistes ou sexistes au travail et qui discriminent de manière consciente et systématique. Mais on peut très bien, sans en avoir conscience, avoir des comportements, des attitudes, des pratiques professionnelles discriminantes et qui aboutissent, mais malgré soi finalement, à privilégier telle catégorie de personnes au détriment de telle autre. Alors c'est vrai au niveau individuel, on peut effectivement discriminer sans en avoir l'intention, et ça peut être vrai au niveau de la collectivité. Par exemple, si les procédures de recrutement ne sont pas suffisamment transparentes, ou si un service fonctionne de manière opaque, fermée, l'institution peut favoriser malgré elle des discriminations.
Pouvez-vous nous donner des exemples ?
Mais oui, bien sûr. En prenant en compte les 2 aspects de la fonction publique, soit les services rendus à la population, soit le fonctionnement interne au sein de la collectivité. Un exemple qui est arrivé à plusieurs reprises dans une mairie, qu'un agent, d'accueil, par exemple, demande à une femme voilée d'enlever son voile, ou un agent qui traite des dossiers, qui se débrouille pour ne pas accueillir les femmes voilées en laissant ses collègues le faire à sa place. Or, l'interdiction du voile dans l'espace public concerne les fonctionnaires, ne concerne pas les personnes qui sont reçues. Et il y a un autre cas qui a fait scandale récemment, c'était un chauffeur de bus qui a refusé de s'arrêter pour laisser monter une jeune fille en mini-jupe en lui reprochant sa jupe courte. Voilà, donc ça ce sont quelques cas parmi d'autres, mais bien sûr les cas les plus graves sont ceux qui concernent l'attribution d'une place en crèche, d'un logement HLM, toute décision de ce type. Et là, si la collectivité ne met pas en place des critères objectifs, transparents, mesurables, c'est la porte ouverte au choix arbitraire et donc aux discriminations.
Certaines collectivités réservent leur stage d'été aux jeunes de la ville ou aux enfants de leurs agents. Ce n'est pas une discrimination quand même ?
Ben si, parce que si vous regardez dans l'autre sens, cela veut dire que la collectivité exclut toutes les autres personnes en se fondant sur un critère qui n'a rien à voir avec les compétences du poste. Autrement dit, qu'est-ce que vous faites de tous les jeunes qui n'ont pas trouvé de stage d'été dans leur propre commune pour des raisons X ou Y ? Et que faites-vous de ceux qui n'ont pas des parents fonctionnaires ou qui ont des parents au chômage, par exemple ? Cela veut dire qu'ils n'ont pas le même accès au monde du travail que les autres, que les enfants de fonctionnaires ou que les résidents de la commune. Et donc, ces jeunes-là n'ont pas la possibilité de se faire une première expérience professionnelle, alors qu'on sait à quel point c'est important dans le monde du travail, ce premier contact et le rôle des réseaux pour trouver ensuite du travail.
Mais ça, c'est un peu... On sauve d'abord les siens, non ?
Oui, bah c'est une tendance spontanée dans toutes les catégories.
Recruter un jeune des quartiers pour animer, réguler le quotidien d'un quartier sensible, c'est une discrimination ?
Ça dépend. Si vous recrutez la personne pour sa seule appartenance, appartenance ethnique, raciale, religieuse ou le fait qu'elle soit du quartier, oui, c'est une discrimination. Mais en revanche, si la fiche de poste clarifie les compétences attachées au poste, par exemple parler l'arabe ou telle langue étrangère, avoir une expérience dans le domaine, maîtriser les problématiques d'interculturalité, alors dans ce cas, peu importe que la personne recrutée soit ou pas du quartier. Toute candidate ou candidat qui répond aux critères définis sera légitime à postuler à ce poste indépendamment de son origine, de sa couleur de peau ou de son lieu de résidence.
Et si on se place du côté de l'égalité professionnelle, ce serait quoi discriminer ?
Alors, il y a beaucoup de discriminations qui sont liées au sexe. Par exemple, recruter un homme plutôt qu'une femme sur un poste technique, stratégique ou dans des filières majoritairement masculines, en estimant qu'une femme a moins d'autorité naturelle ou qu'une présence féminine risque de perturber un service masculin. Autre cas souvent traité par le défenseur des droits, ne pas renouveler le contrat d'une agente contractuelle enceinte, ou alors dessaisir de ses missions les plus intéressantes ou les plus stratégiques une agente qui revient de congé maternité, et ça va parfois jusqu'à la placardisation. D'autres formes de discrimination, c'est une manière de répartir certains types de postes, certaines activités, par exemple tout ce qui relève de l'autorité, ce qui relève de l'encadrement, de la prise de décision, de la stratégie, des choix financiers. Voilà, on a tendance souvent à réserver ce type de mission aux hommes plutôt qu'aux femmes, par habitude, par facilité et aussi par stéréotype inconscient. Une autre forme de discrimination, c'est d'exclure les femmes des hauts postes à responsabilité. Et ça, c'est une réalité statistique de la fonction publique territoriale. À savoir que plus on monte dans la hiérarchie, plus les directions générales et techniques sont massivement masculines. Alors que le vivier de cadres femmes catégorie A existe. Bon, évidemment, c'est vrai aussi en politique, on retrouve la même problématique, puisque on a à peu près 50% d'hommes et de femmes suivant les lois de la parité qui sont élus, alors que les femmes maires ne représentent que 16% des maires en France et 10% seulement des présidentes de conseils départementaux. Pour en revenir à la fonction publique, la discrimination peut aussi s'exercer de manière préférentielle mais illégale, en faveur, si j'ose dire, des femmes. Par exemple, un responsable...
Je vous interromps, vous avez dit en faveur.
Oui, justement, en faveur, si j'ose dire, la précision est importante, parce qu'un responsable qui ne recruterait que des stagiaires jeunes et jolis ferait en fait preuve d'une discrimination qui est fondée à la fois sur l'apparence physique et sur le sexe, au détriment des candidats masculins ou au détriment des candidates qui ne répondent pas à ces critères en étant par exemple plus âgées ou moins séduisantes.
Vous vous êtes rattrapée.
Absolument. Oui, parce que les discriminations, c'est toujours dans les deux sens. Après, la réalité statistique, c'est que les femmes sont beaucoup plus souvent discriminées. Mais évidemment, le but, c'est d'éliminer toutes les formes de discrimination envers toutes les catégories de personnes et envers les deux sexes, naturellement. Si je prends un autre exemple qui est moins caricatural, mais qui est tout aussi discriminant, une directrice de crèche ne serait pas fondée à écarter la candidature d'un homme puériculteur, parce qu'elle craindrait par exemple la réaction des parents. Et là, de nouveau, ce serait un stéréotype, ce serait une projection qui associe les hommes a une incapacité à prendre soin des petits-enfants et, au contraire, qui renverrait les femmes à leur supposé instinct maternel, alors qu'on n'est pas dans les questions d'instinct maternel, on est dans les questions de compétences professionnelles et pas d'une nature masculine ou féminine qui serait apte ou pas à s'occuper des enfants.
Mais on voit des femmes recrutées sur le critère du sexe. On parle même de femmes quota.
Oui, ce qu'on appelle les femmes quota, c'est de l'action positive, et ça, c'est strictement encadré par la loi. C'est un dispositif légal conçu pour résorber des inégalités constatées en faveur du sexe sous-représenté, qu'il soit masculin ou féminin. Autrement dit, quand toute chose égale par ailleurs, un sexe demeure défavorisé, sous-représenté dans un domaine, soit professionnel, soit politique, la loi prévoit des correctifs destinés à rétablir l'équilibre et l'égalité. Mais attention, évidemment, ça ne peut se faire qu'à compétence égale. C'est-à-dire que, dans le cas contraire, on serait dans la discrimination. Si on choisissait arbitrairement une femme ou un homme sur le seul critère de son sexe, là, ce serait discriminant. Par contre, si on le fait à compétence égale ou comparable, eh bien là, on résorbe une inégalité constatée. Voilà. Et dans le meilleur des mondes, bien sûr, l'action positive est destinée à disparaître quand l'égalité sera atteinte, ou, pour le dire autrement, quand les inégalités auront effectivement disparu.
Il y a quand même des pratiques de bon sens. C'est compliqué de recruter une agente mère d'enfant en bas âge sur un poste à responsabilité. Ce sont des postes de à pression qui demandent une grande disponibilité.
Oui, c'est un bon exemple et qui appelle, je trouve, des remarques intéressantes. En fait, en tant que responsable, ce qui vous intéresse, ce sont les compétences professionnelles. Et un entretien d'embauche est là pour évaluer les compétences, toutes les compétences, rien que les compétences de la personne pour le poste. Et ça, c'est la meilleure manière de recruter le ou la meilleure candidate. Si vous éliminez par principe les jeunes mères, non seulement vous vous privez peut-être de la meilleure candidature, mais vous commettez une discrimination dans la mesure où votre choix a été conditionné par la situation de famille, qui est un critère de discrimination interdit par la loi. Et à ce titre, c'est un délit punissable tel quel. Et d'autre part, en fait, cette discrimination, elle ne repose pas sur des faits avérés, puisque vous ne l'avez pas embauchée, cette personne, vous ne savez pas encore comment elle fonctionne, mais elle repose sur des stéréotypes. Par exemple, l'idée qu'une jeune mère fera toujours passer sa vie familiale en premier, alors que la candidate est peut-être très bien entourée, très bien organisée et parfaitement en mesure d'articuler vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, la dernière remarque que je voudrais faire sur cette question de disponibilité, imaginons une fiche de poste qui précise « grande disponibilité exigée ». Est-ce que ça veut dire être disponible jour et nuit, sans limite, soirée, week-end compris, 7 jours sur 7? Ou alors, est-ce qu'il s'agit de réunions, d'événements avec des horaires atypiques, mais qui sont, on imagine, bien sûr, prévus à l'avance, ou une organisation du travail explicitement atypique, par exemple le travail de nuit, les week-ends, etc. Et dans ce cas, les femmes qui postulent savent parfaitement à quoi s'en tenir, et elles postulent en toute connaissance de cause, au poste, avec ses contraintes.
Finalement, ce n'est peut-être pas si compliqué de ne pas discriminer.
Disons que ça demande une vraie vigilance, mais c'est une question d'habitude, de réflexion et d'organisation. Une fois qu'on a identifié au sens légal qu'on sait ce qu'est une discrimination ou pas, on peut entamer un travail déjà sur soi de clarification de ses postures et de ses pratiques. Et la première étape de ce travail, c'est de repérer ses propres stéréotypes. Tout le monde en a, moi y compris, et ce sont ces stéréotypes qui risquent de nous mener à des discriminations. Donc chacun, chacune doit interroger ses idées reçues, ses représentations, ses préjugés, jugements a priori, et mesurer leur poids éventuel dans les prises de décision. Par exemple, si j'adore les Italiens pour leur sens de la fête, si je méprise les provinciaux, tous des ploucs, si je me méfie des Parisiens, tous des snobs, si je n'ai pas envie de recruter une jeune mère, pas fiable et pas disponible, eh ben évidemment, à ce moment-là, j'ai de grandes chances de commettre des discriminations au travail.
Effectivement, hein.
Plus largement, prendre la meilleure décision possible, une décision égalitaire, pertinente, veut dire se mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire se rendre disponible sans se laisser parasiter par les interruptions, et on sait que c'est souvent difficile au travail. Ne pas agir sous le coup du stress, d'une situation déstabilisante, parce qu'à ce moment-là, on agit de manière plus mécanique, plus fermée. Croiser les points de vue, s'appuyer sur des critères objectifs et, si possible, les avoir définis en commun, ces critères objectifs, et puis élaborer des procédures, des outils d'aide à la décision qui vont garantir de l'objectivité, de l'efficacité dans les choix. Et là, ça permet, face à une personne, face à une décision à prendre, d'être sûr qu'on a tout clarifié, qu'on a objectivé au maximum et qu'on prendra la décision dans les meilleures conditions possibles. Et puis, bien sûr, ne pas oublier que, en tant que témoin de discrimination, on a aussi un rôle à jouer si on assiste à des discriminations, soutenir les victimes de discrimination, témoigner en leur faveur. D'ailleurs, quand on est témoin, on est protégé par la loi. Ça aussi, c'est une manière de faire reculer toutes les discriminations.
Le témoignage, c'est pas évident. Parce qu'aussi, on a un comportement où on ne veut pas voir.
Oui, il y a toujours une phase de déni, mais c'est important de savoir, d'une part, que la loi protège absolument les témoins qui soutiennent les victimes ou qui dénonceraient, qui témoigneraient de discrimination. Et d'autre part, c'est important aussi de rappeler que la loi du 6 août 2019 instaure un dispositif obligatoire de signalement de toutes les violences ou comportements sexistes au sein de la collectivité pour les signaler, orienter et les traiter. Voilà, donc il y a des dispositifs qui vont se mettre en place et qui vont permettre d'aider aussi à témoigner.
Bon, mais témoignons, hein. Maintenant, et la collectivité, quel est son rôle à jouer pour lutter contre les discriminations?
Alors, les rôles de la collectivité sont multiples. D'abord, on en parlait au début de l'émission, un rôle d'exemplarité, c'est-à-dire que la collectivité doit vraiment donner l'exemple d'une structure égalitaire, non discriminante, qui traite chacune, chacun de ses administrés, chacune et chacun de ses agents de manière égalitaire. Et donc, la collectivité aussi a à faire ce travail de repérer ses stéréotypes, d'interroger ses pratiques, de clarifier ses critères de sélection, d'élaborer des procédures qui soient transparentes au niveau des services, au niveau des filières, au niveau de la collectivité. Et ça, ça veut dire que la collectivité doit se former dans le domaine, être en mesure de s'assurer que la loi est respectée, et ça, ça veut dire déjà de bien connaître la loi, faire de la prévention, et puis, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place des procédures d'information, de signalement et de traitement des comportements et des pratiques discriminatoires. Et ça, ça veut dire aussi, plus largement, être partie prenante de la problématique des discriminations. Ça veut dire soutenir cette problématique, la porter, en être actrice pour la collectivité, afficher son engagement, faire respecter la loi, et il existe des chartes, des labels, diversité, etc., orientés autour de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre la discrimination. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile. Ça demande parfois, et même souvent, un changement de pratique, un changement de mentalité, une évolution qui est à la fois culturelle, organisationnelle, pour les personnes et pour la collectivité. Mais vraiment, je pense que le jeu en vaut la chandelle, d'abord pour les populations. C'est la garantie de ne pas être discriminé, d'avoir un égal accès à tous les pans de la vie publique et du service public, ce qui est essentiel, bien sûr. Et pour les personnels en interne, c'est pareil, c'est l'assurance de ne pas subir de discrimination au travail ni dans leur vie privée. Pour les services, c'est une garantie de bon fonctionnement, de bonne santé organisationnelle et relationnelle. Et enfin, pour la collectivité en tant que telle, c'est à la fois une question de responsabilité légale, respecter la loi, une question d'éthique et une question d'image. Donc je pense vraiment que la collectivité a tout à y gagner.
Nadine Jasmin, merci infiniment pour cet éclairage. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, j'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous pouvez maintenant répondre à cette question qui concerne chacun de nous, à savoir, au travail, je discrimine ou pas? Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour une prochaine émission sur le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. À bientôt.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.